Bac FM, il est 19h passé depuis quelques minutes et on se retrouve aujourd'hui, mercredi 8 mars, journée des droits des femmes, pour une émission spéciale sur cette journée importante. Donc dans quelques instants, vous retrouverez Théo accompagné d'Amandine Ménigoz, responsable du service au club à la Ligue Bourgogne-Franche-Comté du football, pour parler du sport et plus précisément du football au féminin. Puis juste après, je recevrai Madame Catherine Dehaye, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité homme-femme. Mais tout de suite, on retrouve Hélène, accompagnée de Julie, une jeune étudiante qui évolue dans un milieu masculin. C'est tout de suite, je vous laisse la parole, Julie et Hélène.
À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, nous nous intéressons à la place des femmes dans l'emploi et au travail. Pour parler de ça, je reçois aujourd'hui Julie Vignon, qui suit une formation en paysagisme. Bonjour Julie.
Bonjour Hélène.
Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter ta formation ?
Alors moi, je fais une formation BTS en aménagement paysager au lycée de Chaluis. Et donc ça dure 2 ans, c'est en alternance, donc on a des patrons.
Donc tu travailles en fait ?
Oui, on a 5 semaines de vacances et on est payé.
Et donc avant, tu étais...
Avant ça, j'ai fait une formation, donc j'ai fait un bac pro en alternance toujours. Et du coup, je suis restée chez le même patron pour le BTS. Et j'ai fait cette formation aussi à Chaluis.
D'accord, donc une femme en paysagisme, est-ce que c'est courant ?
Non, bah moi par exemple, dans notre classe, sur 8 élèves, on est 2 filles, donc c'est déjà très très bien. Tout dépend des années en fait et des niveaux, mais en général, on retrouve une fille dans une classe de garçons en aménagement paysager.
Et vous êtes combien à peu près dans les classes ?
Tout dépend, là on est 8, après tout varie, enfin ça varie au niveau des...
Des années ?
Ouais.
Et donc, toi, c'est ta 3e année. Est-ce que, au fil des ans, tu vois plus de filles venir dans cette formation ou pas ?
Non, pas forcément.
Ça reste pareil ?
Ça commence à évoluer, mais voilà.
Ok, donc généralement, on dit qu'il faut des modèles pour s'inspirer. Est-ce que dans ta formation, il y a quand même des filles dont le parcours peut t'inspirer ? Qui ont
non,
le même
pas
métier
tellement.
Et donc, du coup, comment t'es venue l'idée de devenir paysagiste, puisque t'avais pas forcément de modèle ?
Eh ben, je voulais travailler dans tout ce qui était architecture et tout. Mais je voulais faire un métier où j'étais quand même dehors et pas enfermée dans des bureaux ou quoi que ce soit. Et du coup, cette formation me correspondait plutôt bien.
D'accord, donc t'aimes être à l'air libre, avec la nature.
Exactement.
Et donc, du coup, est-ce que tu as été confrontée à des réticences dans ton entourage ?
Non, du tout, du tout. Tout le monde m'a supportée dans mon choix.
C'est super cool. Et donc, on a parlé tout à l'heure du fait qu'il y a peu de femmes en paysagisme, mais dans le métier, mais aussi dans la formation. Mmh. Mis à part cet aspect de chiffres, est-ce que tu te sens minoritaire sur d'autres choses par rapport à ça ?
Niveau force, des fois, pour porter des choses. Mais mes collègues m'aident, et puis voilà. Quoi. Donc, ils sont super...
Il n'y a pas de discrimination.
Du tout.
C'est une super bonne ambiance.
Ouais. Bah, après, tout dépend des entreprises, mais je sais que dans la mienne, voilà quoi. Enfin, mon patron est super, et mes collègues, pareil.
Et donc, il y a des entreprises où ça peut mal se passer ou...
Bah, par exemple, niveau conduite d'engin et tout... ça peut être compliqué des fois, parce qu'ils peuvent se dire que oh, c'est une fille, du coup, elle va pas réussir et tout. Mais j'ai mes collègues qui me poussent plus qu'autre chose, en fait, à conduire justement ça. Mais je pense que dans d'autres entreprises, c'est pas pareil, quoi.
Ouais, donc t'as la chance d'être dans une bonne entreprise.
Ouais.
Bah, c'est super. Et comment t'expliques, du coup, à part ça, le fait qu'il y ait peu de femmes ? Est-ce que c'est... Ça attire moins, justement, par rapport aux conditions de travail ? Est-ce qu'il y a moins de publicité qui est faite ?
Oui, et puis peut-être aussi par rapport au temps, parce que c'est vrai que quand il fait froid, l'hiver et tout, c'est pas toujours facile. Mais je pense, oui, que... Mais après, je me suis pas trop interrogée sur pourquoi il y a pas beaucoup de femmes.
Ça peut être aussi par rapport à la socialisation, comment on est éduqué, je
oui,
sais pas.
Oui, je pense que c'est ça aussi.
Donc, en plus de parler de la place dans la société en général de la femme, on parle aussi de plus en plus de la femme dans l'emploi, des inégalités salariales et de la sous-représentation des femmes dans certains métiers, comme on vient de l'évoquer. Est-ce que toi, justement, une des premières concernées, ça te dérange, ce problème ?
Cette inégalité ?
Ouais.
Je connais pas trop ça, bah, comme je l'ai dit dans mon entreprise, donc j'arrive pas trop à m'en rendre compte. Mais je pense que si j'étais mise au fait, peut-être que là je pourrais vraiment donner une réponse. Mais là, je peux pas trop répondre.
Ah, c'est bien, t'as de la chance. Donc, bah, merci beaucoup, Julie, d'avoir accepté cette interview.
Avec plaisir.
C'était super. Au revoir.
Au revoir.
Merci Hélène, merci Julie. On enchaîne tout de suite avec Théo, qui, avec Amandine Ménigoz, va nous parler football.
Bonjour Amandine Ménigoz.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service au club à la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes aussi une ex-arbitre dans le football. On va revenir sur cette expérience-là. Après, on reviendra aussi sur votre rôle maintenant à la Ligue. Mais votre expérience en tant qu'arbitre, qu'est-ce qu'elle vous a appris en tant que femme ? À quel niveau déjà vous avez arbitré ?
Alors, peut-être est-il utile de revenir sur la façon dont je suis venue à l'arbitrage, et c'est complètement par hasard, c'est ça qui est assez drôle. J'avais fait un cursus de violon au conservatoire de Dijon, et parfois on est destiné à des parcours dont on sait même pas qu'ils existent, et je souhaitais faire une activité sportive, et c'est lors à l'occasion d'un match de foot de mes frères que je suis devenue arbitre, que j'ai pris le sifflet. Et c'est là que la passion a commencé.
Totalement par hasard.
Donc, voilà, complètement par hasard. J'avais 15 ans à l'époque, c'était en 2000. Donc j'ai commencé par une formation initiale en arbitrage. Puis j'ai commencé mon parcours de jeune arbitre au niveau départemental, comme jeune arbitre de district. Puis au niveau régional, comme jeune arbitre de ligue. Et ensuite, j'ai continué mon parcours en tant qu'arbitre assistante parce que c'était une fonction qui me plaisait beaucoup, qu'il y avait des opportunités pour évoluer dans mon parcours footballistique et pour aussi ne plus être seule sur le terrain. Puisque d'être arbitre assistant, ça oblige d'être à plusieurs et d'aller arbitrer sur des matchs de football à trois arbitres. Et ça, c'était très très valorisant aussi d'avoir une équipe arbitrale autour de soi.
L'équipe arbitrale était essentiellement masculine ou parfois féminine aussi globalement ?
Oui, bien sûr, elle était essentiellement masculine, puisque à l'époque, moi quand j'ai commencé l'arbitrage, j'étais quasiment la seule fille arbitre sur l'ensemble du territoire. Alors maintenant, ça a beaucoup évolué, mais voilà, dans les années 2000, c'était ça la réalité de l'arbitrage féminin. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir arbitrer sur des compétitions de plutôt bon niveau, plus haut niveau ligue. À l'époque, c'est CFA, CFA 2, ce qui est aujourd'hui l'équivalent de la N2, N3.
De la nationale.
Et j'ai la chance de faire des compétitions internationales, des tournois de Coupe d'Europe, des matchs de qualification d'équipe de nationale. Donc, voilà, c'est des parcours qui m'ont apporté énormément. Après, quelle est la différence entre un arbitre homme et un arbitre femme? Je dirais qu'il y en a pas vraiment. Les joueurs, ils sont là pour jouer un match et pour le gagner. Peut-être il y a un petit peu plus de distance, plus de respect quand on est une femme, ou en tout cas c'est ce que j'ai ressenti à l'époque où je l'étais.
Le regard était différent aussi des joueurs envers vous quand vous veniez soit les sanctionner, soit les prévenir pour leur parler?
Sur le terrain, non, parce que pour eux, l'arbitrage et l'arbitre, c'est l'arbitre, que ce soit un homme ou une femme. Maintenant, le rapport de force est différent, donc leur façon d'être était peut-être un petit peu adaptée. En tout cas, ils étaient plus surpris avant le match. Pendant, ils avaient peut-être des gestes ou des comportements dont ils n'osaient pas faire avec une arbitre femme plutôt qu'avec un garçon.
Quel regard vous avez sur l'évolution justement des arbitres femmes dans le milieu professionnel ? Bon, alors régional aussi, mais même professionnel, il y a une vraie évolution dans ce domaine-là ?
Oui, il y a une évolution et une évolution plutôt positive. Les femmes ont toute leur place dans le football régional et national, et particulièrement dans l'arbitrage. Pour un élément de contexte, c'est une activité qui mérite d'être passionnée par le football, par cette science humaine qu'est l'arbitrage, parce que la réalité, c'est quand même que c'est pas facile tous les jours. Mais
et puis on sait aussi que l'arbitre, que ce soit homme ou femme, a un petit peu le rôle du méchant aussi.
Oui, bien
dans
sûr,
un match, donc il y a aussi ce chapeau à porter aussi.
c'est en ça que c'est pas forcément facile tous les jours, même si on vit des superbes moments de sport. C'est une école de vie magnifique, l'arbitrage, qui apprend à la prise de décision rapide, à la maîtrise de soi, à la confiance de soi, au questionnement de soi, et le tout dans la pratique sportive. Donc il y a pas une grande spécificité, vraiment l'exigence, elle est la même, que ce soit pour un arbitre féminin qu'un arbitre masculin. La préparation mentale, la préparation physique est la même, parce que le jeu ne s'adapte pas au fait que l'arbitre est un homme ou est une femme. Le niveau de jeu, il est constant sur un match de N2 ou sur un match de N3 et encore plus au niveau professionnel. Il n'y a pas d'adaptation du niveau de jeu. Donc, les femmes doivent être au même niveau physique et dans la préparation que les hommes. Les joueurs viennent gagner le match, peu importe qui les arbitrera. C'est la relation humaine, je pense, qui est différente et le rapport de force peut-être qui est différent. Maintenant, aujourd'hui, on constate une augmentation du nombre d'arbitres féminines et on peut que s'en réjouir. Aujourd'hui, il y a plus de 40 femmes arbitres sur l'ensemble du territoire, sur les 970 que la Bourgogne-Franche-Comté compte. Oui. Quand moi, il y a 23 ans, j'étais quasiment la seule. Donc voilà, ça se féminise. Je crois qu'on prend l'habitude de la féminisation du football, peu importe les compétitions, parce qu'il ne faut pas croire que les femmes font que des compétitions masculines, et le haut niveau nous le montre tous les jours. Acquis, en tout cas ça l'est de plus en plus, que les femmes ont leur place dans le football masculin notamment, et c'est une très bonne chose à mon avis.
La présence des arbitres femmes sur le territoire, c'est voué à s'augmenter. Vous avez un œil aussi sur les formations d'arbitres ?
Oui, bien sûr. Le nombre d'arbitres féminines formées qui continuent la pratique arbitrale sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté augmente de plus en plus. Donc forcément, ça enrichit le terreau de base, si je puis dire, pour faire en sorte qu'à terme, ce soit des femmes qui dirigent le haut niveau des compétitions masculines, bien sûr.
Pour finir ce chapitre sur l'arbitrage, quel est votre plus beau souvenir, vous, en tant qu'arbitre pour multiples compétitions ?
Mon plus beau souvenir, ça va être des rencontres exceptionnelles dans des organisations de compétitions exceptionnelles, des matchs de Coupe d'Europe, par exemple, qui sont forcément la cerise sur le gâteau de l'arbitrage, même si j'en ai pas vécu beaucoup. Le peu que j'ai vécu, c'est forcément des moments sportifs qui sont très très intenses, parce que l'organisation autour de la compétition est forcément à part d'une compétition traditionnelle. Et puis le niveau de football, les émotions que l'on peut vivre avec les hymnes nationaux, par exemple, c'est forcément des choses qu'on retient et qui touche dans un parcours sportif.
Une atmosphère au-delà des autres compétitions.
Bien sûr.
C'est une expérience que vous communiquez aussi désormais avec votre rôle que vous avez. Vous êtes responsable du service au club à la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. En quoi ça consiste ce rôle au sein de la Ligue ?
Alors moi, au départ, j'ai un master de droit du sport et après une expérience professionnelle tout autre, j'ai pris l'année dernière la direction du service au club, mais j'étais pas étrangère aux instances de la Ligue régionale, puisque j'étais donc arbitre et puis j'étais déjà bénévole depuis un certain nombre d'années au sein de la Ligue. Aujourd'hui, donc j'ai pris la direction du service au club, c'est un service qui aide à l'accompagnement et à la structuration des clubs afin qu'ils performent davantage dans leur pratique sportive, mais aussi dans l'organisation de leur association et de la vie de leur association.
Alors ça passe par quels aspects finalement ?
Ben, par exemple, très concrètement, par l'accès à l'emploi, de les aider à avoir un emploi, à recruter dans leur club pour structurer justement leur club et les aider à financer leur emploi à moyen et long terme, c'est-à-dire d'abord dans un process de financement accompagné, et ensuite de pérenniser, une fois les aides à l'emploi arrêtées, de pérenniser le poste par d'autres sources financières.
Et vous accompagnez essentiellement des clubs qui évoluent rapidement à un haut niveau, ou même des petits clubs, sans être péjoratif, mais qui restent à un niveau, admettons, départemental ?
Oui, il n'y a pas de grands clubs et de petits clubs, mais on accompagne tous les clubs, donc tous les niveaux, et peu importe les territoires, tous les clubs sont accompagnés dès lors qu'ils ont un projet de structuration.
Donc vous pouvez très bien accompagner un club qui, par exemple, va évoluer de la D4 à la D3 par chez nous, comme un club comme Cône, par exemple, qui a une très belle évolution au fil des ans.
Oui, tout à fait.
Vous leur parlez aussi des équipes féminines au sein de leur club?
Oui, bien sûr. Et de plus en plus de clubs développent la pratique féminine et c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, on compte un championnat de régional 1 d'environ 10 équipes. Il y a plus de 70 équipes féminines sur l'ensemble du territoire, quels que soient les niveaux. Donc on voit aussi que la pratique féminine augmente d'année en année. Il y a de plus en plus d'équipes de petites aussi, ce qui montre que le développement de la base s'accélère et continue de faire progresser le football féminin. Donc on peut vraiment s'en réjouir. On a un objectif pour 2028 de complète parité dans les instances du football, ce qui demande un accompagnement des clubs et de réussir la fidélisation des filles. Parce que finalement, la difficulté l'enjeu en tout cas, c'est la fidélisation des filles à la pratique et des anciennes joueuses à prendre des responsabilités dans les clubs et dans les instances. Souvent, les femmes, et je l'ai constaté dans d'autres domaines d'activité, se sentent être moins légitimes à prendre des responsabilités. Et c'est en ça que les instances doivent aussi les aider à prendre confiance et à s'investir dans leur club ou dans les instances, qu'elles soient départementales ou régionales.
Le plus bel exemple, c'est aussi Corinne Diacre, qui est à la tête de l'équipe de France féminine, qui est une des rares entraîneuses à diriger une équipe féminine. Vous aimeriez bien que ce sûr. Soit un exemple qui se démocratise de plus en plus, que ce soit dans des équipes locales, nationales et internationales?
Oui, bien sûr. On constate aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'il y a moins de femmes qui ont des responsabilités dans les instances, à la tête des équipes, à la tête des clubs. Donc, plus on accompagnera les filles dans la pratique du football d'abord, puis ensuite dans la prise de responsabilité dans les clubs et les instances, et plus ça deviendra de plus en plus normal d'avoir des femmes cadres dans le football. Je crois qu'on commence à ouvrir cette porte-là. Il faut certainement pas la refermer et puis agrandir encore l'ouverture. Je crois qu'on est dedans. Continuons à valoriser le travail des femmes dans le football. Je crois que c'est un enjeu essentiel pour le football de demain.
Est-ce que cette valorisation, elle passe aussi par une médiatisation qui devrait être peut-être un petit peu plus équitable par rapport au football masculin ?
Oui, bien sûr, oui. La médiatisation a évidemment son importance dans la place des femmes, dans le football en général. Donc, bien sûr, il en faut davantage, il y en a de plus en plus. Mais il en faut davantage, oui, il y a un vrai effort à faire là-dessus, oui, bien sûr.
Et c'est tout ce combat que vous menez au-delà des autres dans votre rôle donc de responsable du service des clubs à la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté.
On essaye.
Je voudrais vous remercier, Amandine Ménigoz, d'avoir participé à cette émission donc en ce 8 mars. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci.
Merci Théo. Dans un instant, je reviens, mais cette fois je ne serai pas seule car je serai rejointe par Catherine Dehaye, donc déléguée aux droits des femmes. Mais avant ça, on fait une petite pause musicale et en ce 8 mars, je vous propose d'écouter Woman de Doja Cat et on revient tout de suite sur les ondes.
Let me be your woman. Let me be your woman. Woman, woman, woman. the paper in the picture like a diorama. Gotta face a lot of people of the opposite, cause the world told me we ain't got the common sense. Gotta prove it to myself that I'm on top of shit. And you would never know a God without a goddess. As honest as fucking honest, kidding, I could be on everything. I mean, I could be the leader, head of all the states. I could smile and jiggle it till his pockets empty. I could be the CEO just like a Robin Fenty. And I'ma be there for you cause you on my team, girl. Don't ever think you ain't hell of these niggas' dream, girl. They wanna pit us against each other when we succeed, and for no reasons they wanna see us end up like we Regina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king, you've heard a lot, you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine.
Woman, let me be a woman.
Retour sur BAC FM en ce 8 mars, journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Et comme je vous le disais, je ne suis pas de retour seule, je suis accompagnée de Catherine Dehaye. Bonjour Catherine Dehaye.
Bonjour.
Donc vous êtes déléguée aux droits des femmes et à l'égalité hommes-femmes à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection de population. C'est bien ça ?
C'est bien ça, oui.
Très bien. Est-ce que pour commencer, vous pouvez un petit peu nous dire ce que cela signifie qu'être déléguée aux droits des femmes ?
Alors, être déléguée aux droits des femmes, c'est animer au niveau départemental la politique publique dédiée à l'égalité femmes-hommes. Donc, sous l'autorité du préfet, on décline en fait la politique publique décidée par le gouvernement. C'est une mission transversale, interministérielle, et les grandes missions sont d'assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, économique, sociale et politique. Également de promouvoir les droits des femmes, prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes, mais également mettre en œuvre l'approche globale et intégrée de l'égalité femmes-hommes.
Donc ça fait beaucoup de missions à accomplir. Est-ce que vous êtes aidée au quotidien, donc avec qui est-ce que vous travaillez pour mener à bien vos objectifs ?
Alors, une déléguée aux droits des femmes ou un délégué aux droits des femmes ne peut rien seul, bien évidemment. Et l'idée, c'est de travailler en partenariat avec tous les acteurs qui peuvent s'investir sur cette thématique, donc à la fois tous les services de l'État, mais également les collectivités territoriales et le tissu associatif. Et on a la chance dans la Nièvre d'avoir un tissu associatif extrêmement mobilisé.
Avant de revenir un petit peu donc sur vos missions, on va s'attarder légèrement sur la journée des droits des femmes en elle-même et sur son histoire. Donc déjà, depuis quand cette journée existe-t-elle ?
Alors, elle a été instituée par l'Organisation des Nations Unies en 1977. En France, elle est officialisée en 1982. Mais en fait, elle fait écho au mouvement féministe, au combat pour les droits des femmes qui ont pris place dès le début du XXe siècle, que ce soit en Europe ou dans le monde. Et le 8 mars, l'officialisation est venue consacrer cette lutte.
Et donc, pourquoi est-ce qu'au premier abord, elle a été instaurée, du coup, cette journée ?
Vraiment pour inviter tous les États à proclamer un jour de l'année, une journée des Nations Unies pour les droits de la femme et la paix internationale. C'est vraiment déjà bon, lui donner un statut officiel à cette journée et puis aussi sacraliser cette journée d'action, comme vous le disiez au départ, une journée d'action, de sensibilisation, de mobilisation, permettre des événements, des initiatives pour réfléchir, échanger, se mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
En parlant d'action et de mobilisation, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est concrètement réalisé pendant cette journée ? Quelles sont justement les actions qu'on peut retrouver ?
Alors au niveau national, si je prends l'exemple demain de l'événement dédié à Gisèle Halimi, l'hommage qui va être rendu par le président de la République, et puis en département, selon les acteurs et les volontés, vous allez avoir des tables rondes, des ciné-débats, tout un tas d'actions en fait pour évoquer différents sujets, que ce soit l'entrepreneuriat au féminin, l'égalité salariale, l'accès à la santé, enfin vraiment mettre en exergue toutes les acteurs et puis également les avancées sur la thématique.
Alors, il y a un petit détail sur lequel j'aimerais revenir, c'est qu'il y a encore quelques années, tout le monde parlait de la journée de la femme, et donc aujourd'hui, ce n'est plus l'appellation, c'est la journée des droits des femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce changement d'appellation ?
Alors, effectivement, depuis plusieurs années, l'appellation qui est retenue et qui tend à généraliser, à être usitée, c'est la journée internationale des droits des femmes. Je ne sais pas pourquoi ce glissement, mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits des femmes qui est la dénomination la plus utilisée.
Et donc, depuis que cette Journée des droits des femmes a été instaurée, quelles évolutions frappantes on a pu remarquer ? Qu'est-ce qui a changé vraiment depuis l'inauguration de cette journée ?
Vous avez toutes les avancées législatives, tous les mouvements qui peuvent être portés et toutes les actions concrètes dans tous les domaines de la vie qui ont pu être menées.
Du coup, on va en revenir un petit peu donc, sur vos missions personnelles. Donc, vous intervenez sur plusieurs plans afin d'agir sur l'égalité et notamment, vous avez pour mission de promouvoir l'égal accès des femmes à leurs droits. Donc, on peut citer la santé, l'éducation, l'emploi ou les droits civils et civiques. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ?
Oui, bien sûr. Si je retiens l'actualité, on est sur les deux ans de la loi du 2 mars 2022 qui ont allongé le délai légal pour l'interruption volontaire de grossesse, par exemple, qui a allongé le délai aussi également pour l'IVG médicamenteuse. Vous avez des fonds qui ont été dédiés pour la précarité menstruelle. Il est question aussi de rembourser les protections périodiques réutilisables. Vous avez aussi la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui ont été mises en place. Vous avez toutes les mesures qui sont prises sur la lutte contre les violences faites aux femmes, toutes les mesures qui ont été prises sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale. Donc les actions sont multiples et à la fois législatives et concrètes.
Très bien. Donc un autre des objectifs que vous avez et qui peut-être permettrait de faciliter l'égalité femmes-hommes, c'est notamment de valoriser la place de la femme dans la société. Mais alors, comment est-ce qu'on peut s'y prendre et qu'est-ce qui est justement à valoriser ?
En fait, vous avez plusieurs niveaux d'action. Vous avez, si je prends l'action nationale emblématique, par exemple l'entrée de Simone Veil au Panthéon, qui est à la fois symbolique et qui vient honorer tout le combat que Simone Veil a pu mener en tant que femme politique au niveau français, mais aussi européen. Et vous avez par exemple l'exposition des archives départementales qui a lieu en ce moment qui s'appelle Femmes plurielles qui vient replacer l'histoire des Nivernaises à la fois dans l'histoire du département et dans l'histoire nationale et voilà en réexpliquant le rôle des femmes dans la société.
Ce qui permet un petit peu du coup de les remettre sur un pied d'égalité avec les hommes et donc justement le respect de cette égalité ça s'apprend tôt. Et c'est aussi pour cette raison que sa prise en compte est encouragée dès le plus jeune âge. Mais alors, comment est-ce qu'on parvient à toucher justement les tranches d'âge les plus jeunes ?
Alors, lorsque le président de la République a lancé l'égalité femmes-hommes comme grande cause de son premier quinquennat, et elle est reconduite d'ailleurs comme grande cause de son second quinquennat, lui, il préconisait qu'on travaille l'égalité femmes-hommes dès la crèche. En fait, il y a les deux. Il y a la sphère privée, où on peut travailler l'égalité au quotidien, et la sphère publique, et notamment à l'école, pour travailler cette égalité, où justement les enseignements sont préconisés sur cette égalité femmes-hommes.
Et du coup, cette nouvelle génération, donc pas forcément dès la crèche, parce qu'ils apprennent ça naturellement, on va dire, puisque c'est dès le plus jeune âge, mais donc je pense des générations un petit peu plus, les adolescents d'aujourd'hui, peut-être même les enfants qui sont sur le point de devenir adolescents, est-ce qu'ils sont réceptifs à ces messages d'égalité et d'équité ?
Je ne peux que le souhaiter.
On le souhaite tous. Et donc, pour finir un petit peu sur le sujet de l'âge, il y a une question qu'on peut se demander. Est-ce que l'apprentissage de l'égalité, ça peut se faire à n'importe quel âge ?
Bien sûr. On peut, une expression que j'aime beaucoup qui dit « on peut chausser les lunettes de l'égalité ». En fait, voilà. Dès l'événement, quand on travaille cette thématique, des choses apparaissent finalement et qui deviennent évidentes. Donc bien sûr, l'égalité femmes-hommes, elle se travaille au quotidien, toutes et tous ensemble et à n'importe quel âge de la vie.
Alors il y a aussi un autre sujet qui va un petit peu de pair avec le fait de sensibiliser les jeunes. C'est la favorisation de l'orientation des jeunes filles vers des métiers peu féminisée. Et donc justement, il y a quelques minutes, Hélène était avec une jeune femme du nom de Julie qui désirait s'orienter vers le métier de paysagiste, un secteur qui est assez masculin au final. Et donc, est-ce que vous pourriez lui donner quelques conseils ?
Alors, je lui souhaite de pouvoir réaliser son rêve, tout d'abord, et de ne pas s'interdire et que l'environnement ne lui interdise pas d'accéder à son rêve. Après, s'orienter vers les professionnels de l'éducation nationale dans l'orientation et la thématique. Et puis après, se renseigner sur les organismes de formation, peut-être rencontrer des professionnels, le parcours finalement d'une recherche classique.
Et donc cette recherche classique, une fois, on peut imaginer qu'une fois mise en place, que ces jeunes femmes, donc les jeunes femmes comme Julie, sont rentrées dans le monde du travail, l'aide que vous apportez ne s'arrête pas là, mais elle se continue sur un plan un petit peu plus professionnel cette fois-ci, et donc je pense notamment à la sensibilisation égalité homme-femme dans le monde du travail. Quelles sont les actions qui sont entreprises dans ce domaine-là ?
Vous avez différentes actions, vous avez par exemple les négociations d'entreprise sur les plans égalité femmes-hommes, vous avez la mise en place de l'index égalité femmes-hommes dans les entreprises également, et puis après à charge des équipes de pouvoir mener des actions en faveur de l'égalité femmes-hommes dans leur structure.
Alors est-ce qu'il y a des interventions dans des entreprises spontanées, on va dire, ou des organismes afin de toucher justement les gens sur ce sujet ?
Alors vous avez sur le territoire l'association FETE, F-E-T-E, Femmes Égalité Emploi, qui travaille à différents stades, à la fois avec les scolaires sur la déconstruction des stéréotypes et justement ouvrir ce champ des possibles sur la mixité des métiers, etc. Mais qui va pouvoir aussi intervenir avec les entreprises pour travailler cette égalité femmes.
Alors donc vous parlez de l'association FETE qui lutte justement pour cette égalité, mais est-ce que nous-mêmes, à notre échelle, au quotidien, nous pouvons accomplir, qu'est-ce que nous pouvons accomplir pour faire avancer les choses ?
Déjà chausser ces lunettes de l'égalité, s'intéresser à la thématique et travailler dessus, et après elle se travaille au quotidien.
Très bien, merci beaucoup. Alors on passe à un sujet qui est un petit peu plus sombre, mais il est important de mettre des mots dessus. Une autre de vos missions, c'est aussi de sensibiliser la population à la problématique des violences faites aux femmes. Et donc une question qui peut se poser, c'est quelles sont les différentes violences auxquelles une femme peut être confrontée ?
Alors la liste des différentes violences est la suivante. On parle de violences au sein du couple, des mariages forcés, des mutilations sexuelles féminines, des viols et autres violences sexuelles, des violences au travail, de la prostitution et de la traite à des fins d'exploitation sexuelle, de la lesbophobie, biphobie, transphobie, l'esclavage moderne, la traite autre que l'exploitation sexuelle ou les cyberviolences sexistes et sexuelles.
Donc ça fait un panel tristement grand hein, de violences faites aux femmes. Et donc ces femmes qui peuvent être victimes de ça, vers qui elles peuvent se tourner ?
Il y a différents niveaux d'intervention sur l'urgence et les procédures. Vous avez bien sûr les forces de l'ordre. Mais après, vous avez tous les acteurs qui peuvent accompagner les victimes. Alors je pense par exemple aux travailleurs sociaux du conseil départemental ou aux travailleurs sociaux des différentes structures, mais également le tissu associatif. Sur la Nièvre, nous avons, comme je vous le disais, la chance d'avoir un tissu associatif très impliqué, très motivé. Vous avez différentes associations. Alors sur l'accès au droit, vous avez le CIDFF, Centre d'information du droit des femmes et des familles, pour les victimes d'infractions pénales, France Victimes 58 ans d'avis. Vous avez également Décidel de l'association Nièvre-Reguin, avec des travailleurs sociaux sur l'accueil, l'écoute, l'orientation. L'association AFED aide aux femmes et aux hommes en difficulté, qui va pouvoir écouter et ensuite orienter sur les acteurs idoines. J'ai peur d'en oublier, pardonnez-moi.
Il n'y a pas de souci.
Mais voilà, vous avez tout le travail sur l'hébergement d'urgence aussi qui peut être mené et les prises en charge. Donc voilà, vous avez différents acteurs qui interviennent sur l'accompagnement des victimes.
Donc tous ces acteurs qui viennent aider sur, comme vous dites, l'accompagnement des victimes. Essayons de revenir aussi un petit peu sur une vision un petit peu plus globale du sujet. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une question donc, qui peut nous venir ? C'est quelles sont les différences qu'on peut retrouver dans l'avancée des droits des femmes entre la France et l'Union européenne ?
Alors, ce que peut vous dire l'égalité femmes-hommes est bien sûr travaillée au niveau de l'Union européenne. C'est un sujet qui est pris en compte en fait en France et partout dans le monde.
Y a-t-il des choses mises en place dans d'autres pays de l'Union européenne ou alors à l'international qu'on ne retrouve pas forcément en France ?
Je peux vous citer un exemple qui est un exemple souvent repris, notamment en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, s'inspirer de la législation espagnole pour lutter contre les violences faites aux femmes et notamment la mesure qui est l'ordonnance de protection, par exemple, qui a été inspirée du modèle espagnol.
Et d'un côté un petit peu plus international, à ce niveau-là, il y a quelque chose aussi ?
Ah oui, alors la France mène une diplomatie féministe, et notamment lors de la présidence française de l'Union européenne l'année dernière, l'égalité femmes-hommes était vraiment une priorité de cette présidence française.
Très bien. Et donc, si on reste sur ce sujet à l'international ou même simplement national, que pouvons-nous attendre de l'avenir sur le sujet de l'égalité homme-femme ?
Qu'il continue à progresser,
Ça, c'est, on espère en tout cas.
Voilà, et qu'on continue à travailler dessus.
Merci beaucoup Catherine Deleu d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. On le rappelle, vous êtes déléguée aux droits des femmes et à l'égalité homme-femme, un statut à valoriser non seulement aujourd'hui, mais aussi au quotidien, si nous voulons faire avancer les choses.
Merci à vous.
Pour finir, un petit mot sur l'exposition Femmes Plurielles, dont le vernissage a eu lieu ce soir à 18h30 aux archives départementales. L'inauguration a été tenue par Blandine Delaporte, première vice-présidente, ainsi que les vice-présidentes Michel Dardan, Jocelyne Guérin, Justine Guyot et Joël Julien, et le vice-président Wilfried Séjot. Vous pourrez y retrouver différents thèmes mettant en avant les femmes, comme les femmes et la religion, ou encore le travail des femmes, et bien d'autres. N'hésitez pas à aller y faire un tour, chers auditeurs, vous en aurez le temps, puisque l'exposition se poursuivra jusqu'au 16 juin 2023. Tout de suite, c'est le retour du son pop-rock, je vous souhaite une excellente soirée sur Bac FM.